Il est 18h, presque 18, allons-y.
Radio Star Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Let's eat some people house.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous sommes avec Svetlana Tikhanovskaya. C'est la chef de l'opposition en Biélorussie. Elle est en exil à Vilnius depuis que la population s'est soulevée contre la réélection frauduleuse d'Alexandre Loukachenko. Depuis aussi, des opposants ont été emprisonnés, parfois torturés ou condamnés à de très lourdes peines de prison. Svetlana Tikhanovskaya vient se rappeler au bon souvenir de la France et de l'Europe. Ne nous oubliez pas, dit-elle, et vous l'entendrez. Le bruit du monde ce soir est en Grèce, en mer Égée, qui a été victime tout cet été. C'est pas la première fois, d'une drôle de marée blanche, une substance gluante et urticante qui tue aussi faune et flore. Ce que l'on pointe du doigt, ce sont les industriels grecs et turcs, mais pas seulement. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Eugénie a trouvé des écoles jamais rouvertes aux Philippines depuis le début de la pandémie, une émission de télé-réalité consternante aux États-Unis et des salles de rage en Finlande. Vous verrez ce que ça veut dire. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et Angélique Boin, à quelques semaines de la présidence française de l'Union, on vous donne le mode d'emploi. Voilà à quoi ça sert de présider l'Union. Voilà ce qu'on y gagne. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four et ce fameux contrat de sous-marin torpillé par les Australiens. Et s'ils avaient raison, c'est ce que se demandera Jean-Marc. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir, Svetlana Tikhanovskaya.
Bonsoir.
Vous êtes en France pour 3 jours. Vous avez rencontré hier le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a réaffirmé la solidarité de la France avec la Biélorussie, son soutien à la démocratie. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que demain, vous rentrerez avec des assurances qui vous rassurent?
You know, our first visit to France.
Il s'agit de notre première visite officielle en France en tant qu'opposition depuis le mois d'août 2020. Emmanuel Macron était le premier président européen que j'ai rencontré à Vilnius. Et le message était très clair, le message qu'il a adressé à l'ensemble des autres pays, à savoir la France est à nos côtés. La France se préoccupe de la situation au Bélarus et veut vraiment nous aider. Tout au long de l'année qui s'est écoulée, nous avons entretenu un dialogue constant avec les autorités françaises et la France a vraiment très bien œuvré. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de rappeler au gouvernement français et au peuple français quelle est notre situation.
Ça veut dire que vous devez répéter que vous êtes encore là.
Absolutely. You know, when people don't
c'est tout à fait ça. Vous savez, quand les gens ne voient plus d'images à la télé de manifestations immenses, ils ont tendance à minimiser l'importance de notre combat et à oublier ce qui se passe. Pourtant, nos prisonniers politiques sont toujours derrière les barreaux. Donc, notre révolution se poursuit et le peuple biélorusse n'abandonne pas. Il est dommage que l'on s'arrête uniquement, que l'on juge d'après des images télévisées et pas et que l'on n'agisse pas au nom de grandes valeurs. Pourtant, nous continuons de souffrir et nous voulons que nos voisins et alliés nous aident dans ce combat.
Emmanuel Macron avait dit l'année dernière qu'il était prêt à servir de médiateur, d'intermédiaire pour vous parler à vous, à la Russie, à Loukachenko. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité?
French government accepted to attempt.
Le gouvernement français, en effet, a accepté d'essayer de parler au Kremlin à propos de la situation au Bélarus. Et l'attitude de la France n'a pas changé depuis. La situation empire au Bélarus car la violence continue de se déchaîner, mais en même temps, ce soulèvement populaire affaiblit le gouvernement bélarus. Et il y a en plus la réaction de l'Union européenne à travers des sanctions contre le régime biélorusse. Mais c'est vrai que la France a pris la tête de file dans l'effort visant à résoudre cette crise. Nous avons besoin d'une médiation, nous avons besoin de négocier avec le régime et la France joue en ce sens un rôle crucial. Il est absolument nécessaire que le Bélarus reste sur l'agenda politique.
Svetlana Tikhanovskaya, il y a eu des sanctions, il y a toujours des sanctions. Elles continuent notamment depuis le détournement de l'avion de ligne qui a permis à Loukachenko récemment d'arrêter un opposant. Est-ce que les sanctions sont suffisantes et surtout est-ce qu'elles sont efficaces?
Oui, les sanctions sont efficaces, n'en doutez pas. Il y a déjà eu trois vagues de sanctions en automne et en hiver l'an dernier. Il y a eu des sanctions personnelles, mais après le détournement de l'avion de ligne, la réponse de l'Union européenne a été plus forte. Et cette fois, les sanctions ont été conçues pour faire mal au régime, avec interdiction de visa, gel d'avoir. Cela a eu un fort impact sur l'économie du pays, sur les affaires et sur nos dirigeants. Mais il faut de la cohérence, il faut que cela se poursuive. Il ne faut pas laisser Loukachenko faire du chantage à l'Europe. Il prétend que si l'Europe lève les sanctions, il va libérer les prisonniers politiques. Mais c'est uniquement du chantage.
Mais il l'a déjà fait, non, ça, ce genre de marchandage, prisonnier contre levée de sanctions, il l'a déjà fait, est-ce qu'il peut le refaire?
First of all, we don't want European countries to
Tout d'abord, nous ne voulons pas que les pays européens croient que notre peuple se contentera de miettes. Il ne faut pas répéter les erreurs commises il y a 15 ans. Je comprends bien qu'il y a une grande lassitude. C'est un combat de longue haleine. Mais il ne faut pas que l'Europe trahisse ses valeurs. Il est grand temps de modifier les relations avec le régime. Et ce marchandage avec les prisonniers politiques constituerait une trahison de la part des pays européens, à notre avis. Et nous sommes convaincus que cette fois, c'est différent. Il y a un tournant qui s'opère et l'Union européenne doit bien le comprendre.
Vous avez dit dans une interview précédente que des proches de Loukachenko avaient pris contact avec vous pour demander quoi et est-ce que ça veut dire que vous les sentez fébriles?
Ah, tout à fait, oui. Les responsables du régime sont en fait les esclaves du système. Ils vivent dans la crainte s'ils osent parler contre le régime. Et puis il y a des liens avec la mafia. Ils sont ligotés. C'est vrai qu'on essaye d'entretenir des conversations secrètes avec les forces de l'ordre, avec certains ministères. Et c'est vrai que le régime s'efforce par tous les moyens de faire lever les sanctions. Le régime n'est pas monolithique, cependant. Il y a des divisions au sein du régime. Mais ceux parmi les proches de Loukachenko qui osent s'opposer à son régime, ils peuvent tout perdre. Mais ils n'osent pas prendre la responsabilité de se dresser en faveur des droits de l'homme contre Loukachenko.
Vous l'avez déjà un peu dit. Est-ce qu'on peut imaginer réellement un dialogue avec Loukachenko, entre vous et Loukachenko? Est-ce que c'est envisageable? Et s'il le demandait, qu'est-ce que vous répondriez?
La question des négociations est assurément sur la table. C'est la seule manière civilisée de sortir de cette crise. Et notre tâche consiste à faire comprendre au régime que nous n'arrêterons pas la pression qu'on exerce sur lui jusqu'à ce qu'on obtienne de véritables négociations entre le peuple biélorusse, la société civile et notre peuple et les autorités, bien sûr, mais pas avec la Russie. C'est la manière dont nous voyons une sortie de crise. Peut-être qu'on pourra pousser le régime à cela et notre travail, c'est de nous préparer à ces négociations à venir. Vous savez que l'OSCE peut demander à des leaders, des dirigeants, des experts de communiquer avec les dirigeants biélorusses. Donc c'est sur la table.
Svetlana Tikhanovskaya, il y a plus de 600 prisonniers politiques en ce moment en Biélorussie. Est-ce que vous savez dans quelles conditions ils sont détenus et que savez-vous surtout des tortures qu'ils ont subies?
The situation is awful.
Oui, la situation est véritablement atroce dans ces prisons. Les prisonniers sont humiliés physiquement et moralement tous les jours. Pour les punir, on les place en cellules d'isolement, soi-disant parce qu'ils ne sont pas obéissants. Il y a beaucoup de femmes parmi ces prisonniers politiques. Elles ne bénéficient d'aucune des normes sanitaires et hygiéniques minimales. On les fait dormir parfois sans oreiller, sans matelas. On joue de la musique très fort en permanence. C'est une forme de torture. Et ces méthodes de torture ont lieu tous les jours dans nos prisons. Et puis, le COVID-19 est également une arme. Si un prisonnier est infecté, eh bien, on va le placer dans d'autres cellules avec d'autres prisonniers pour qu'il les contamine. Les prisonniers sont extrêmement isolés. On ne peut pas communiquer directement avec eux, mais uniquement à travers les avocats qui ne peuvent pas nous en dire beaucoup. Il y a déjà eu des procès iniques. Maria Kolesnikova, par exemple, qui s'est vue condamnée à 11 ans de prison pour absolument rien. Et notre tâche, eh bien, c'est que cette sentence soit cassée, soit annulée, qu'elle ne fasse pas 11 ans de prison.
Qu'est-ce que vous savez du sort de ce jeune journaliste qui a été arrêté à la descente d'un avion détourné, donc il y a quelques semaines?
Oui, il s'agit encore d'une autre histoire, celle de Roman Protasevich. Le régime l'a pris en otage, littéralement, et l'ont obligé à chanter les louanges du régime de Loukachenko, alors qu'on sait ce qu'il en pense réellement. Des pressions sont exercées sur les proches des prisonniers pour les obliger à consentir à ce que veut le régime. Et maintenant qu'il est en résidence surveillée, on n'a pas de ses nouvelles, mais j'espère que ça va pour lui.
Et quelles nouvelles avez-vous de votre propre mari qui est emprisonné depuis plus d'un an ?
Mon mari, eh bien, son procès est en cours depuis plusieurs mois déjà. Et je pense que cette épreuve va se poursuivre pendant encore des mois. Mais heureusement, il est très fort. Mentalement, il ne trahira jamais ses convictions ni ses valeurs. Il est parfaitement innocent, il le sait. Donc, il se bat contre le système et il a décidé de se défendre lui-même lors du procès.
Est-ce que vous avez le sentiment que Loukachenko se radicalise, qu'il est de plus en plus sévère avec les prisonniers et avec la population?
La seule méthode qui lui reste, puisqu'il n'a plus le soutien de la population, c'est de terroriser le peuple biélorusse. Il est en train de détruire notre économie, tous les médias, la presse, des organes de presse qui existaient depuis de très longues années au Bélarus. Il n'a plus rien à offrir à son peuple que la terreur et la violence. Voilà pourquoi son peuple ne le soutiendra plus. Il a perdu son lustre, son image de leader puissant et il est devenu un simple criminel aux yeux de beaucoup de Biélorusses. Vous savez, le peuple biélorusse est très actif. La société civile se structure. Nous avons un large réseau de militants et de bénévoles, de volontaires qui tous les jours diffusent nos symboles, diffusent nos journaux et nous font exister sur Internet. Et nous nous préparons à une grande grève nationale. Par ailleurs, beaucoup d'anciens policiers qui sont de notre côté nous donnent, ou de policiers en exercice, nous informent de la situation depuis l'intérieur. Ils nous renseignent sur l'humeur des Biélorusses. Donc, on se prépare à une action. Tout le peuple s'est mobilisé et tous les Biélorusses se sont mobilisés à travers le monde. Et ils continuent de se mobiliser. Mais bien sûr, sans le soutien de la communauté internationale, notre combat sera beaucoup plus difficile à mener.
Svetlana Tikhanovskaya, si l'avenir était sombre et que la Biélorussie en restait à cette situation sans que vous puissiez obliger Loukachenko à partir, est-ce que ce serait votre échec personnel? Est-ce que ce serait notre échec collectif?
Je ne crois pas que la situation soit vouée à ne pas bouger. Les progrès sont peut-être invisibles, mais n'oubliez pas, tout notre peuple est en train de se soulever, de se rebeller. Et la responsabilité de l'avenir du Bélarus repose essentiellement sur notre peuple, mais aussi sur la communauté de l'Union européenne. Nous sommes un pays européen. Et l'Union européenne peut choisir de fermer les yeux, mais le peut-elle vraiment sur ce qui se passe en Biélorussie? Tous les jours, nos prisonniers sont battus, torturés, humiliés. Et l'Union européenne ne peut plus se taire.
À plusieurs reprises, vous avez dit que vous n'étiez qu'une transition, que vous n'aspiriez pas à diriger votre propre pays. Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis aujourd'hui?
La volonté de notre peuple. Si le peuple biélorusse a besoin de moi, à n'importe quel titre, comme militante des droits humains ou présidente, je répondrai à leur appel.
Une dernière chose, à Vilnius, où vous vivez désormais, ou même ici, ou à chaque fois que vous voyagez, est-ce que vous vous sentez en danger? Est-ce que votre vie est en danger?
I don't really know how long regime's hands are.
Je ne sais pas, je ne connais pas la longueur du bras du régime biélorusse. Bien sûr, j'ai des officiers de sécurité qui m'accompagnent, mais la question, ce n'est pas moi seulement, ce sont tous les militants qui sont harcelés, notamment ceux qui sont restés dans le pays. Ils sont tous la cible du régime. Eh bien, il faut prendre nos responsabilités, savoir comment réagir si on a l'impression que quelqu'un nous suit. Il faut être aux aguets. Et il faut faire attention à notre sécurité en permanence. Mais vous savez, moi, je suis prête, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Mais je n'ai pas d'autre choix que de continuer à avancer avec des milliers de prisonniers derrière les barreaux. C'est ma responsabilité de tout faire pour eux. Ces militants en prison ont sacrifié leur vie, leur liberté pour nous permettre de continuer ce combat. Et en prison, ils continuent d'essayer de résister. C'est à nous de les libérer.
Merci beaucoup, merci vraiment Svetlana Tikhanovskaya de votre passage dans Un jour dans le monde et merci à FDR pour la traduction.
Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde en Grèce sur la trace gluante d'une pollution blanchâtre qui tue faune et flore en mer Égée. Et le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Logénie.
La chaîne américaine CBS comptait réinventer la télé-réalité avec des activistes. C'est un flop retentissant.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir, bonsoir à tous. La France présidera l'Union en janvier. Cela n'arrive que tous les 14 ans environ. Mais qu'est-ce que ça signifie très concrètement?
On le verra ensemble, le monde d'après. Bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir tout le monde. Paris est furax après l'annulation du contrat des sous-marins par l'Australie. Mais Paris a peut-être péché par naïveté. La position australienne est compréhensible.
Le tour de la planète continue à tout de suite tout le monde. Il passe à bah tiens, par l'Australie, justement, avec Maple Glider. Swimming, c'est sur France Inter. Watching the surface on the bed. Du monde ce soir est en Grèce, mais ne vous fiez pas trop au son que vous entendez derrière moi. La Grèce, ses petites criques délicieuses, son eau cristalline. Sauf que pas du tout. Cet été, au nord-est de la mer Égée, dans certaines îles et sur les plages du continent, les touristes ont vu apparaître une sorte de substance blanchâtre, gluante, peu ragoûtante, irritante pour la peau, néfaste pour la faune sous-marine. Cette invasion de substances végétales serait due au rejet industriel en Grèce et en Turquie toute proche, mais dû aussi au réchauffement climatique. À Kavala, le grand port le plus proche, François-Xavier Freland a promené son micro et c'est lui qui raconte.
Panagiotis n'a pas pris la mer depuis mars dernier. Ce pêcheur de Kavala n'a jamais connu ça. À la surface de l'eau menaçante, des centaines de méduses. Elles se nourrissent du phytoplancton surabondant qui tapisse désormais la surface de la mer et les fonds sous-marins du port et de la côte. Panagiotis Karanikolas, président de la coopérative de pêche de Kavala.
La mer est vraiment opaque ici. Vert foncé, marron. C'est pas bon. Elle n'est pas claire, on n'y voit plus rien. Les poissons ne bougent plus, ils attendent. Et depuis mars, avril, juin, juillet et août, on ne pêche plus.
En cause, ces immenses traînées blanchâtres et profondes qu'on surnomme poétiquement morve de mer, une sorte de substance gluante à base de phytoplancton qui prive la flore et la faune sous-marine d'oxygène et qui vient se mettre dans les filets et empêche de voir les poissons. À l'Institut National de Recherche de la Pêche, à Kavala, où l'on contrôle la qualité de l'eau de mer, on relativise néanmoins ce phénomène, apparu en 2007, juste à côté, dans la mer de Marmara, en Turquie, à cause de l'intense activité industrielle et du réchauffement climatique. Manos Koutrakis, directeur de l'Institut de Recherche de la Pêche.
À cause des températures élevées et de l'importante présence de nitrates dans notre environnement, nous avons une explosion de phytoplancton qui s'agrège et s'agglutine. Ici, cela provient d'abord du nitrate utilisé dans l'agriculture et de l'industrie. Cela dit, la mer de Marmara est connectée à la mer Égée. Et nous savons que la situation existe là-bas aussi, et qu'elle a forcément un impact sur le nord de la mer Égée. Mais c'est un phénomène naturel. On ne peut pas parler de pollution.
Pourtant, sur les îles touristiques de Tassos et Lemnos, juste en face, cette substance blanchâtre a fini par gagner le rivage, provoquant l'inquiétude et la gêne des estivants. C'est le cas de Aya Aïdouaran, jeune étudiante de Toulouse, venue ramasser les sacs plastiques sur les plages de la région dans le cadre d'un échange européen.
Surtout durant notre excursion pour l'île de Tassos, durant le trajet sur le ferry, j'ai pu constater une sorte de substance blanchâtre mousseuse et je me suis posé la question qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça pourrait être et qui m'a très inquiétée pendant un moment. Je me suis baignée pendant 5-6 minutes dans une plage et en y sortant, je commençais à sentir que ma peau me grattait. Et le soir même, j'ai vu que ça commençait à faire une sorte d'allergie, des rougeurs, des petits boutons. Et j'ai dû aller à la pharmacie dire, est-ce que c'est normal? Puis ils m'ont donné un traitement.
Pour Georges Pascalidis, responsable local du parti de l'Alliance écologique, le problème est peut-être d'abord l'omerta générale autour de ce phénomène, en Grèce comme en Turquie.
I believe it's caused Je crois en effet que le problème vient du nitrate et la moitié provient des rejets de l'usine de fertilisants juste à côté, contre laquelle nous combattons depuis plus de 50 ans à Kavala. Ça a des effets négatifs sur les hommes, sur les poissons, la pêche, sur les pêcheurs, sur le tourisme. Ça a des effets sur tout le monde, mais personne ne fait rien. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui y travaille. Ils ont de gros salaires, alors ils étouffent nos voix. Ils achètent les journaux, les ONG, ils offrent des voitures. Et bien que nous ayons beaucoup de différences avec nos voisins turcs, nous connaissons les mêmes problèmes. Nous avons des contacts avec des organisations turques. Mais la démocratie ne fonctionne pas tout à fait pareil en Turquie. Et beaucoup ont peur d'exprimer leurs sentiments et leurs idées.
Dans la région de Kavala, les pêcheurs ne savent toujours pas quand ils vont pouvoir reprendre une activité normale. L'été s'achève et cette marée blanche pourrait disparaître temporairement avec le retour de l'hiver et du froid. Mais pour beaucoup de touristes, l'image même de la Grèce, aux eaux transparentes et cristallines, en a pris un coup.
La pollution de la mer Égée en Grèce, reportage signé François-Xavier Frelon. Merci beaucoup François-Xavier. Le bruit du monde, la suite passe sous les radars, comme chaque soir, grâce à Sébastien Logeni. Voilà, vous entendez le bruit, les petites mobilettes. Nous sommes dans les rues de Manille, Sébastien, où l'épidémie de Covid continue de frapper très durement.
Oui, dans ce pays pauvre où très peu de gens sont vaccinés, à peine 20%, le système de santé implose. Les hôpitaux sont débordés, les médecins démissionnent. Résultat, la seule réponse, c'est encore le confinement. Il a été légèrement allégé cette semaine pour les restaurants, les églises et les salons de beauté, mais pas pour les écoles. Les Philippines sont en effet l'un des rares pays au monde où les écoles n'ont jamais rouvert depuis le début de la pandémie, depuis bientôt un an et demi, 18 mois d'apprentissage perdu. Le président philippin Rodrigo Duterte refuse tout aménagement. Il craint que les enfants ne contaminent leurs grands-parents et donc l'issue est ce stade pour des millions d'écoliers. C'est l'enseignement à distance, des cours en ligne, des documents imprimés, des leçons diffusées à la télé. Les parents d'élèves font de leur mieux pour soulager leurs enfants. Cette mère de famille raconte qu'elle ne demande pas à sa fille de faire les tâches ménagères, par exemple, quand elle a un cours à l'école, afin qu'elle puisse se concentrer, travailler. En plus, les cours en ligne, dit-elle, sont plus difficiles que les cours en face-à-face où l'enseignant peut instruire plus clairement. Les Philippines ne sont pas le seul pays, je le disais, au monde où les élèves sont encore obligés de rester à la maison. 17 pays sur la planète ont fait ce choix. Le Bangladesh, le Venezuela, l'Arabie Saoudite, le Panama ou encore le Koweït. Un choix terrible pour la jeune génération, au point que l'UNICEF s'alarme et demande aujourd'hui dans un communiqué la réouverture urgente de tous les établissements.
Nous partons pour les États-Unis où une émission de télé-réalité consterne les Américains.
Ça s'appelle The Activist et le concept est le suivant. 6 militants, 6 activistes donc devraient s'affronter devant les caméras de CBS à partir du mois d'octobre afin de défendre leur cause dans la santé, l'éducation ou l'environnement. Le gagnant aura le droit de participer au sommet du G20 à Rome. Ils seront coachés par des stars qui n'ont rien à voir, mais alors rien à voir avec le militantisme. J'ai nommé Usher, un chanteur de Airbnb qui a eu son heure de gloire dans les années 90, une Miss Monde indienne et une danseuse qui pour l'instant s'est illustrée dans la version américaine de Danse avec les stars. Voilà, le décor est planté, les 6 candidats ne sont pas encore connus, on sait juste qu'ils vont se mesurer lors de défis évalués par leurs coachs et leurs abonnés sur les réseaux sociaux, les réseaux qui se régalent de cette idée saugrenue depuis une semaine. Cet internaute, par exemple, imagine déjà les échanges entre les activistes et leurs coachs. « Oh, je suis désolé, Timmy, mais ton orphelin n'a pas eu assez de likes sur Facebook. Tu ne vas pas pouvoir manger cette semaine. » Ou encore « Ah, c'est intéressant ton pitch, Brian, mais tu crois pouvoir faire vraiment une danse TikTok pour résumer la nécessité de mettre fin aux mutilations génitales en Ouganda ?» Voilà, les internautes s'en donnent à cœur joie, un feu roulant de critiques qui a amené CBS à l'instant à reformater son émission. Plus de défis entre candidats, peut-être plus de coach, on transforme tout en documentaire avec une date de sortie inconnue. L'activisme 2.0 a visiblement bien fonctionné.
Allez, si ce monde vous rend dingue, ou la télé aussi d'ailleurs, vous pouvez toujours aller en Finlande pour vous défouler.
La Finlande, pays qu'on imagine volontiers apaisé, tranquille, Fabienne, et qui pourtant s'est depuis cet été fait parler de lui pour sa rage room, sa salle de colère en bon français. En clair, on paye tout, on paye pour tout casser dans une salle prévue à cet effet, armée d'une batte de baseball et d'une paire de lunettes pour évacuer le stress, les frustration contre le Covid ou votre mariage. On connaissait déjà le concept, mais là, la nouveauté, c'est que ce sont des femmes qui tiennent la batte de baseball. Voilà, là c'est Sana Céline, la cinquantaine, qu'on entend fracasser un ordinateur, un aspirateur, une télé, une assiette ou même une bouteille. Voilà, c'est son amie qui l'a amené ici, dit-elle. Elle a essayé, elle a trouvé ça très amusant. Les femmes, ajoute-t-elle, sont habituées à devoir se comporter correctement, normalement à devoir se contrôler, pas le droit de montrer sa colère. Alors il faut trouver d'autres moyens de se défouler et ça c'est très libérateur. Voilà, la Rage Room d'Helsinki qui permet peut-être de lever le tabou de la colère et de l'agressivité chez les femmes. Mais oui, il y en a aussi, et c'est tant mieux, la salle affiche déjà complet.
Calmez-vous, Sébastien, s'il vous plaît. Avant de sortir du studio, tiens, regardez, j'ai Something Beautiful pour vous. C'est le titre de la chanson de William Z. Villain, et c'est sur France Inter. You make me wanna stumble on pillows, skin both my knees.
Something beautiful. Something something beautiful.
William Z. Villain, Something Beautiful, c'est sur France Inter. Direction la Belgique.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union, général.
Un jour dans le monde.
La Belgique et même Bruxelles, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, avec vous, Angélique Boin. Comme chaque jeudi, Angélique a compté du mois de janvier. Et pour 6 mois, la France prend la présidence tournante de l'Union Européenne. Alors, on nous dit partout que c'est très important, mais en fait, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire tout ça.
Oui, alors en fait, on prend la tête du Conseil de l'Union européenne, qui est l'un des trois piliers institutionnels avec la Commission et le Parlement. Et concrètement, la France va présider les conseils des ministres à 27 qui se réunissent très régulièrement pour fixer la position des États sur telle ou telle législation européenne.
Et donc, c'est très important pour le gouvernement.
Oui, parce que quand on a la présidence, on a la maîtrise de l'agenda. On peut faire avancer plus ou moins vite les lois en cours de négociation parce qu'on fixe en fait les ordres du jour des différents conseils des ministres organisés dans 10 grands secteurs, environnement, agriculture, transport. Aussi parce que c'est le ministre concerné qui dirige les débats, ce sera donc le ministre français. Et parce que, enfin, c'est lui qui doit trouver le compromis avec ses 26 homologues. Alors on va évidemment profiter de cette présidence, hein, comme les autres d'ailleurs, pour pousser nos priorités. C'est ce qu'explique Stéphane ces journées, c'est le conseiller d'Emmanuel Macron, patron des eurodéputés macronistes.
Je pense notamment à la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, je pense au sujet de régulation des grands acteurs du numérique. Pour tous ces grands sujets-là, ça va être des moments importants pour la France, puisqu'on aura l'occasion de le mettre en haut de la pile de l'agenda, dans les discussions européennes, et ça se transformera en politique publique pour les Français et pour les 500 millions d'Européens.
Mais du coup, Angélique, est-ce que ça veut dire qu'on peut pousser des sujets et aussi en enterrer d'autres?
Ah oui, comme par exemple le pacte migratoire, hein, qui est un peu une patate chaude que l'on se refile d'une présidence à l'autre depuis un certain nombre de mois. Écoutons maintenant Anna de Pernet-Grönenbergel. Elle est eurodéputée verte allemande. Hein. C'est ainsi, dit-elle, qu'on a par exemple laissé traîner dernièrement le dossier de la politique agricole commune.
D'un côté, elle va pouvoir faire avancer certains dossiers qui lui sont importants, et aussi, malheureusement, certains dossiers qu'elle n'aime pas du tout, les met tout en bas de l'agenda. Et malheureusement, il y a certains dossiers qui sont extrêmement difficiles au niveau des différentes positions des États européens que chaque présidence fait un peu tomber et on n'avance pas.
Donc Angélique, si je vous suis bien, la présidence de l'UE, c'est du pouvoir, mais c'est aussi des responsabilités.
Ah oui, car nos ministres doivent connaître leurs dossiers sur le bout des doigts, avoir potassé les positions de leurs homologues, mais aussi celles de la Commission et du Parlement. On va prendre un exemple hein, sur le droit des travailleurs ferroviaires, par exemple, dossier suivi par Anna de Pernet-Grönenberg, comme la PAC hein, sous présidence allemande. Eh bien, le ministre des Transports a négocié d'abord une position commune avec ses pairs, puis l'ambassadeur qu'il représente ici doit chercher un second compromis avec le représentant de la Commission et du Parlement. Ça donne du pouvoir au pays qui préside, mais il faut aussi maîtriser ses sujets.
Quand on passe les droits des passagers ferroviaires, on va parler quel est le rôle de la SNCF, de la Deutsche Bahn, combien de minutes vont avoir combien de compensations en euros. C'est très technique.
Donc dans il faut pays.
Dans tous les pays, il faut savoir, on va dire les limites rouges de là où les pays vont dire niette, et aussi là où on va rapporter en fait le meilleur résultat pour les pays.
Et donc, pour seconder nos ministres, eh bien, on a recruté ici 80 conseillers en plus des 200 personnes hein, qui travaillent déjà pour le gouvernement français à Bruxelles.
Mais alors, Angélique, quand même, une dernière question. La présidence française de l'UE, à partir du 1er janvier, vous l'avez dit, on sera au beau milieu de l'élection présidentielle.
Effectivement, en avril, et c'est pas idéal, hein, s'il y a un nouveau gouvernement, eh bien, imaginez les nouveaux ministres, ce sera pas simple pour eux, mais pour Emmanuel Macron, politiquement, qui fera de l'Europe un thème de campagne en début de présidence, eh bien, c'est un atout. Il faudra d'ailleurs se méfier des effets d'annonce, hein, s'inquiète certains, comme l'eurodéputé de droite Arnaud Danjean.
Merci beaucoup, Angélique. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est chaque jeudi dans Un jour dans le monde.
Fabienne Synthès. Le 18-20.
Et le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Ça sent la crise diplomatique. Jean-Marc, Paris est très en colère après la rupture par l'Australie de ce qui avait été surnommé le contrat du siècle. La livraison donc de 12 sous-marins par l'entreprise française Naval Group. Brutal, imprévisible, du Trump. C'est ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Mais pour vous, le choix australien de privilégier à la place une alliance avec Washington et Londres, ce choix est compréhensible et c'est votre monde d'après.
La première raison est simple. L'Australie a peur, elle fouette. En termes triviaux, elle a peur de la Chine, son grand voisin régional du Nord, et les Australiens ont peur au premier sens du terme. L'expansion militaire chinoise de ces dernières années est rapide, spectaculaire, d'abord dans la zone dite de mer de Chine méridionale, puis encore plus au sud, près des Philippines. La marine chinoise, en plein développement, a pris le contrôle de plusieurs îlots, les Spratleys, les Paracels, elle y construit des pistes d'atterrissage, y bâtit des infrastructures militaires. Pékin y conteste aussi le droit international de la mer. C'est plus seulement Taïwan qui se sent menacé. L'Australie, finalement, n'est plus si loin. Et d'ailleurs, la tension entre les deux capitales saute aux yeux, en fait, depuis plusieurs mois. Expulsion des journalistes australiens de Chine, tension autour de l'opérateur de téléphonie Huawei, les contentieux se multiplient. Donc, il est logique que l'Australie, à un moment donné, change de logiciel. Les États-Unis lui proposent un accord global de sécurité avec des sous-marins à propulsion nucléaire, là où l'accord avec Paris prévoyait des sous-marins classiques. Canberra choisit la solution la plus protectrice. C'était, en fait, prévisible. Paris a peut-être un peu péché par naïveté, par aveuglement, en ne le voyant pas venir. D'ailleurs, fait révélateur, aujourd'hui, la presse australienne se fait à peine l'écho de la colère française. C'est une brève. Elle regarde surtout la colère chinoise. C'est ça le sujet important vu de là-bas.
Et donc, résultat, une alliance de l'Australie avec les États-Unis et le Royaume-Uni.
Et là aussi, c'est logique. Le choix de l'Australie est dicté par la peur, donc point 1, on l'a vu, et aussi par un élan naturel vers des pays, des alliés de cultures proches et de langues similaires. C'est le point 2. Nous avons une histoire commune de démocratie maritime, disait Joe Biden la nuit dernière, pour justifier cette alliance lors d'une conférence de presse d'ailleurs dont l'éclat a sans doute flatté le Premier ministre australien. Et il y a là une alliance naturelle, c'est vrai, elle ne vient pas de nulle part. Washington et Canberra étaient déjà liés par un pacte de sécurité mutuelle, font partie d'un même réseau de partage du renseignement et d'un même groupe diplomatique, le Quad, avec l'Inde et le Japon. Et puis surtout, l'offre américaine ne pouvait pas se refuser. Un partage de technologies sur le nucléaire, c'est rarissime. La France, oui, est le dindon de la farce, mais elle ne peut que le constater. Les États-Unis sur le militaire, c'est plus fort que toi. Ajoutons que cette alliance est logique aussi vu de Londres, bien forcée de regarder vers le monde anglophone, puisqu'elle a claqué la porte de l'Europe. Et logique plus encore vu de Washington, les États-Unis se retirent du Proche et du Moyen-Orient, on l'a bien vu à Kaboul, pour mieux se concentrer, on le sait, on l'a vu, sur la zone Indo-Pacifique, théâtre de leur grande rivalité avec la Chine. Et là, il suffit de regarder une carte dans cette partie du monde. C'est 60% de la population mondiale, 40% de l'économie mondiale. L'Australie est un pion essentiel. La France, l'Europe sont en dehors, en fait, de cette carte.
Enfin, sauf Jean-Marc, il y a quand même eu un contrat, non, qui a été bafoué.
Oui, c'est sûr, mais bon, les affaires sont les affaires. La morale de la guerre nous place là-dedans. C'est pas une découverte. C'est pas la première fois qu'un contrat d'armement est rompu pour des intérêts politiques supérieurs, entre guillemets, et on n'est jamais trahi de toute façon que par ses amis. S'y ajouterait, c'est la troisième raison qui rend la décision australienne compréhensible, s'y ajouterait des retards dans la livraison des sous-marins français. C'est en tout cas ce qu'affirme le pouvoir australien. Et là encore, on aurait pu le voir venir. En juin dernier déjà, le Premier ministre Scott Morrison évoquait l'hypothèse d'un plan B sur ce contrat. Ces derniers jours, la presse australienne et plusieurs think tanks américains évoquaient l'impérieuse nécessité d'une alliance entre les deux capitales. Et puis l'offre américaine, répétons-le, est intéressante aussi sur le plan économique puisqu'elle propose un saut technologique à l'Australie, le nucléaire. L'ironie de l'histoire, quand même, c'est que le groupe français Naval Group avait initialement décroché ce contrat après une bataille commerciale contre un rival allemand, TKMS. Résultat de cette bataille entre Européens, victoire des États-Unis. Tiens, voilà un bon sujet de discussion pour le dîner prévu ce soir à l'Élysée entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Cet épisode donne de l'eau finalement au moulin du président français qui plaide pour une autonomie européenne sur la défense. Il faut s'y faire. Vu de Washington, version Biden comme version Trump, l'Europe c'est secondaire sur l'échiquier mondial. Il y a plus important.
Jean-Marc Faux, merci beaucoup. Bien sûr, nous, on reste ensemble dans un instant. C'est le journal d'Hélène Philly.